Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 9. Depuis qu'il avait appris de la chambre le départ d'Henriette, Picard avait jugé inutile de retourner à la salpêtrière. Tout son temps et toute sa préoccupation étaient sollicités par le chevalier. À présent, plus que jamais, il reconnaissait l'importance qu'il y avait à ce que l'évasion de Roger ne pût échouer. Et il se félicitait d'avoir suggéré au comte la pensée de lui confier la lettre qu'il devait remettre au prisonnier et qui lui permettrait de pénétrer à la Bastille. Depuis la veille, il avait attendu sans quitter l'hôtel que le comte le fît appeler dans son cabinet pour lui remettre cette lettre. Mais en vain s'était-il consumé, pendant des heures entières, dans une impatience fiévreuse, Monsieur de Lignières ne lui avait pas donné signe de vie. Le délai qu'il s'était fixé allait expirer bientôt. On était déjà au samedi matin. Que faire ? Pensa Picard. Le comte aurait-il changé d'idée après mûre réflexion ? Remettrait-il simplement à plus tard de tenter une épreuve décisive sur les résistances de son neveu ? Dans l'un et l'autre cas, Picard devait être fixé au plus tôt afin de prendre de son côté une détermination. Monsieur de Lignières n'avait pas abandonné l'idée que lui avait suggérée son fidèle valet. La lettre était écrite. Mais une aggravation, survenue depuis 24 heures dans l'état de la comtesse, avait absorbé tous ses moments et lui faisait négliger toute autre occupation. En effet, le docteur, à la suite de la dernière consultation, n'avait pas dissimulé ses inquiétudes. Ami des familles de Lignières et de Vaudrey, comme il l'était depuis si longtemps, il avait toujours eu son franc-parler. « Il faut, avait-il dit au comte, il faut pour que l'état maladif de la comtesse ait pris tout à coup de si grandes proportions, il faut, dis-je, que la chère dame ait subi une émotion violente. » Monsieur de Lignières avait gardé le silence. Puis le docteur avait prescrit que le plus grand silence fût observé dans la chambre de la comtesse, qu'on ne toléra auprès d'elle que les personnes qui lui étaient sympathiques et qu'en aucun cas on ne lui permit de quitter le lit avant qu'il l'ait autorisé. Toutes ces recommandations trouvèrent M. de Lignières plus inquiet que jamais et aussi plus exaspéré contre le chevalier qui l'accusait d'avoir provoqué cette grave maladie. Aussi eut-il grand-peine à ne pas laisser éclater son ressentiment contre Roger lorsqu'au moment de se retirer, le docteur revint sur ses pas pour lui dire « Eh, mais je n'ai pas aperçu ici une seule fois Monsieur le chevalier de Vaudrey. Je sais cependant combien est grande l'affection filiale qu'il porte à la comtesse. Je regrette même cette abstention de la part de votre neveu, car j'ai la conviction que notre malade le verrait avec plaisir. » Monsieur de Lignières continua à dissimuler. Il prétendit ignorer si le chevalier se rendrait à l'invitation qu'il se proposait de lui adresser. C'est sur cette réponse ambiguë que le docteur avait pris congé du lieutenant de police, non sans avoir paternellement renouvelé ses recommandations. M. de Lignières avait alors songé à la lettre écrite depuis la veille et qui était restée dans un tiroir de son bureau. Il entra dans son cabinet et fit appeler Picard. Lorsque l'huissier vint le chercher dans sa chambre, Picard était plongé dans de profondes réflexions. Au petit coup sec frappé contre la boiserie de la porte, il sursauta. Puis allant ouvrir, il introduisit l'huissier. « Que me voulez-vous ? » lui demanda-t-il vivement. « Ordre de monseigneur le lieutenant de police, » répondit celui-ci d'un ton d'autorité comique. « Mon maître me mande ? À l'instant. Que ne lui disiez-vous plus tôt ? Je me serais déjà rendu auprès de lui. » L'huissier sortit d'un pas mesuré. Picard, sans s'inquiéter de son guide, avait descendu 4 à 4 les marches de l'escalier. Il arriva tout haletant à la porte du cabinet. Autorisé à entrer, il se présenta devant le bureau où se tenait le comte. « Picard, » dit M. de Lignières, « voici la lettre qu'il s'agit de faire tenir à mon neveu. Je la remettrai moi-même à M. le chevalier. Seulement, tu prendras pour cela l'agrément du gouverneur. Une simple formalité. « Oui, monseigneur. Faut-il partir tout de suite ? Il est trop tard aujourd'hui. Alors, demain ? C'est cela même. » Le domestique était devenu ponceau tant la joie le suffoquait. Le comte mit cette menace de congestion sur le compte de l'émotion qu'éprouvait le valet à se charger de faire entendre raison à Roger. Il lui dit donc « Calme-toi, J'ai tout lieu de croire que plusieurs des raisons que je fais valoir dans cette lettre amèneront le chevalier de Vaudrey à capitulation. J'espère un bon résultat de la mission que je te confie. » Picard était sorti radieux du cabinet du lieutenant de police. Il n'avait plus qu'à attendre le moment de travailler à la délivrance de son maître, et tout semblait jusque-là marcher à souhait. Pour réussir, il ne lui fallait plus, pensait-il, qu'agir avec autant d'audace et de résolution qu'en avait autrefois déployé le geôlier Ruminiac. Et maintenant qu'il était décidé à risquer ce coup décisif, l'impatience le gagnait. Comme le soldat qui sait la bataille imminente, il avait hâte de commencer le feu. Son service auprès du comte terminé, il avait regagné sa chambre et s'y était enfermé à double tour. Précaution utile du reste pour la besogne qu'il allait faire. Ce n'était pas tout, en effet, que d'avoir bien son plan dans la tête, de savoir comment il procéderait pour arriver à son but. Il lui fallait en outre posséder les accessoires indispensables pour la scène à jouer. Et il récapitula mentalement. Une tabatière. Il en avait une magnifique et pleine d'excellents tabacs qu'il conservait précieusement. Il la sacrifierait volontiers, dût-il se passer de priser pendant le restant de ses jours. Donc, il ouvrit le tiroir de sa commode et trouva l'objet bien enveloppé et placé dans un coffret en satin fané où il conservait quelques reliques du temps de sa jeunesse amoureuse. Deux bouts de corde. Pour cela, il n'avait que l'embarras du choix. Néanmoins, comme il fallait quelque chose de résistant, sans être par trop volumineux, il voulut choisir entre des cordons de rideau hors de service, dont il avait tout un paquet, et la vulgaire corde de chanvre dont il ferait l'acquisition. Les deux présentaient des inconvénients, et Picard s'arrêta à l'idée de foulards en soie joints bout à bout, comme réunissant les conditions voulues. Il pouvait effectivement dissimuler quatre grands foulards dans les deux poches de côté de sa livrée. Un bâillon, c'était l'accessoire indispensable, et celui-là ne se trouverait pas tout fait. Comment le confectionner? Certes, M. Picard, en temps ordinaire, n'avait jamais touché à une aiguille, pas même pour recoudre un bouton. Quant à charger de l'opération quelqu'un de plus adroit, il n'y fallait pas songer. La plus élémentaire prudence l'obligeait à y passer la nuit au besoin, mais à fabriquer lui-même le bâillon nécessaire. Il s'y mit, et pendant plus d'une heure, taillant, rognant, cousant, défaisant, rajustant, il parvint à fabriquer quelque chose qui tenait le milieu entre une balle à jouer et une pelote à épingle. Et rien n'était plus comique que sa façon de prendre mesure sur sa propre bouche pour ne pas faire un bâillon qui ne pût entrer dans la bouche de celui auquel il le destinait. Mais en dépit de tout le mal qu'il s'était donné, le brave homme se félicitait d'avoir passé une partie de sa nuit pour le service de son jeune maître. Il ne pensait guère à aller se mettre au lit. Ses accessoires prêts, il demeura dans son fauteuil, ruminant dans sa tête une foule d'idées pour se confirmer dans cette opinion que le lendemain, à pareille heure, son cher chevalier et lui galoperaient sur la route de Normandie à la poursuite de la charrette des déportés. Et le petit jour, filtrant à travers les rideaux, le surprit, toujours assis et rêvassant. Ce fut pour cet excellent Picard comme une veillée des armes. Il s'étira comme un homme qui aurait fourni toute une nuit de sommeil non troublé et se mit à la fenêtre pour remplir d'air frais ses poumons resserrés par l'émotion. C'est qu'il commençait à éprouver cet état nerveux qui, chez nous, créatures impressionnables, précède en général l'accomplissement d'actes de bravoure ou d'audace longuement prémédités. Agité, fiévreux, il consultait sa montre, trouvant que ce jour-là, le soleil était bien long à se lever. Dans son impatience, il allait et venait dans sa chambre, comptant ses pas. Puis il revenait s'accouder à la croisée, le regard embrassant le panorama du vieux Paris et dominant les toits, les tours crénelées de la Bastille se dégageant peu à peu des brumes du matin. C'était dimanche, ce fameux dimanche tant attendu. Les cloches sonnaient l'office et les rues se peuplaient des fidèles matineux se rendant aux églises. D'ordinaire, le vieux sceptique se gaussait des dévots qui vont user, selon son expression, leurs genoux sur de sacrées dalles. Mais ce jour-là, peu s'en fallait qu'il ne se rendît lui aussi devant l'autel pour demander au ciel de faire réussir son entreprise. Enfin, l'heure attendue sonna. Picard enfouit dans une de ses poches les foulards noués deux par deux, mit dans l'autre le bâillon ainsi que le mouchoir de grosse cotonnade qui devait le maintenir entre les lèvres de celui auquel on le destinait. Puis il s'occupa de vider dans les goussets de son gilet le contenu de la tabatière, opération qui provoqua chez lui un certain nombre d'éternuements qui lui parurent de bon augure. Il était prêt. La lettre du comte à la main, il quitta sa chambre. Moins d'une heure plus tard, il se trouvait, après maints tours et détours, posté à l'entrée de la rue Saint-Antoine, les regards inquiets fixés sur la forteresse. Tout à coup, comme il se morfondait à attendre, une idée traversa son esprit et vint y jeter le trouble. Il avait cru n'avoir plus qu'à marcher de l'avant, et voilà qu'une difficulté surgissait qu'il n'avait pas prévue et qui pouvait tout faire manquer au dernier moment. Il s'était bien muni de tous les accessoires que l'on sait. Il avait été chargé par le lieutenant de police, son maître, de cette lettre qui devait lui donner accès dans la prison. Mais une fois le plan exécuté jusque-là, comment ferait-il sortir le chevalier? Le premier gardien venu reconnaîtrait le prisonnier au passage, et tout l'échafaudage si laborieusement élevé s'écroulait comme un château de cartes. Il n'avait pas songé à cela, et dans son enthousiasme pour le procédé de Rumignac, il s'était embarqué avec une légèreté déplorable dans une expédition que le moindre détail négligé pouvait faire avorter. « Misérable que je suis !» pensa l'infortuné Picard. « C'est moi qui aurais tout compromis par ma stupide confiance. Tout est à recommencer au moment même où il faudrait se mettre à la besogne. » Et le malheureux continuait à s'invectiver, se creusant la cervelle, à chercher une combinaison pour parer à l'inconvénient qui surgissait à l'improviste. Les idées les plus saugrenues lui venaient à l'esprit et le laissaient ensuite plus embarrassé que jamais. Enfin, après avoir longuement réfléchi et repoussé bien des combinaisons comme impraticables, il s'arrêta à cette conviction que le chevalier de Vaudrey ne pourrait s'enfuir de la Bastille qu'au moyen d'un déguisement. Et pour rendre son maître tout à fait méconnaissable, voici la singulière combinaison qu'il imagina. À quelque distance du lieu où il se trouvait, c'est-à-dire à une centaine de pas dans la rue Saint-Antoine, il avisa une boutique d'apothicaire. Il y pénétra en se tenant la mâchoire comme s'il eût été atteint d'une rage de dents. L'apothicaire, naturellement, voulut profiter de la circonstance pour vendre à ce client matinal sa drogue et le plus cher possible. La chose lui fut d'autant plus facile que Picard ne songeait guère à marchander. « Vite, monsieur l'apothicaire, » dit-il en simulant une violente douleur. « Donnez-moi ce que vous voudrez, mais surtout, appliquez-moi, je vous prie, sur la joue, une bonne ouate et une bande de toile de coton, car je crains beaucoup l'effluxion. » L'apothicaire ne se fit pas prier. Il empaqueta une fiole de son élixir, la mit dans la poche de son client d'occasion, puis procéda à la confection d'une planche de ouate et d'une bande dont il entortilla consciencieusement le visage de Picard. « Bon, bon, c'est très bien, » fit celui-ci. « Et je vous suis très reconnaissant, monsieur l'apothicaire. » Il paya sans marchander et sortit de la boutique. Il était absolument méconnaissable, ayant surtout pris la précaution de se mettre au moyen de son foulard une mentonnière qui lui couvrait le visage jusqu'au nez. Maintenant, comme rien ne l'empêchait de tenter l'aventure, il se dirigea résolument vers la forteresse. Arrivé devant la sentinelle, il montra la lettre du lieutenant de police. Immédiatement, on lui livra passage. Une fois dans la cour principale, il marcha vers le corps de garde, en homme qui connaît les êtres, et s'adressant à l'officier de service. « Je suis Picard, » lui dit-il, « le premier valet de chambre de Monseigneur le lieutenant de police, qui m'a fait l'honneur de me charger de cette missive pour son neveu, monsieur le chevalier de Vaudrey. » Du corps de garde, il passa dans le couloir principal où se tenaient les guichiers de service. Rumignac l'aperçut. Il le reconnut à son allure et à son costume noir bien plutôt qu'à son visage. Et s'approchant avec familiarité, « Comme vous voilà empaqueté, monsieur Picard !»« Ah, ces maudites dents !» répondit le domestique en portant la main à sa joue. « Vous avez une fluxion à ce que je vois !»«
Une maîtresse fluxion, monsieur Rumignac !»
Vous auriez mieux fait de garder la chambre en ce cas.
Impossible, monsieur Rumignac. Le devoir avant tout.
Ça, c'est juste. Mon maître, monseigneur le lieutenant de police, n'a confiance qu'en moi pour certaines missions.
Ah, vous venez en mission. Auprès du gouverneur? Pas précisément. Je suis chargé de remettre cette lettre à votre prisonnier.
Monsieur le chevalier de Vaudrey ?
Oui.
Alors, je vais m'en charger, si vous le voulez bien.
Ah non pas ! Monseigneur m'a bien recommandé de la remettre en main propre à son gredin de neveu.
En ce cas, monsieur Picard, je vais faire prévenir son excellence le gouverneur. Et le geôlier se dirigea vers la pièce où se tenait l'officier de service. Picard ne put se défendre d'un léger tressaillement. Mais il se remit bientôt, sachant que le comte de Lignières avait recommandé tout spécialement Roger à la bienveillance du gouverneur. Aussi se trouva-t-il tout à fait rassuré lorsque Rumignac, revenant, lui dit
« Ce n'est là qu'une question de forme, notre consigne avant tout. Il s'agirait de Monseigneur lui-même que nous ne pourrions pas agir autrement. »
Le valet s'inclina pour se donner une contenance. Depuis qu'il se trouvait en face du geôlier, son émotion ne cessait d'augmenter. Il y voyait trouble, comme si un nuage eût passé sur ses yeux. Ses oreilles tintaient, et le sang lui montait au visage. Il se sentait rouge comme une pivoine. Heureusement que la ouate, le bandeau et le foulard lui permettaient de dissimuler son visage tout bouleversé. Un incident faillit tout compromettre en provoquant chez le domestique du comte un insurmontable tremblement nerveux. Enfin, la cloche de la chapelle sonnait la messe. Les soldats quittèrent précipitamment le corps de garde pour venir faire la haie sur le passage du gouverneur qui se rendait à l'église. Le tambour battit au chant. Et le gouverneur, suivi des officiers, passa à quelques mètres seulement de Picard. Celui-ci avait fait un mouvement pour se cacher derrière les guichetiers. C'était une imprudence qui n'eut heureusement pas de suite fâcheuse, car Rumignac profita de la circonstance pour plaisanter son ami en lui disant
« Vous avez encore de la coquetterie, vous ? Ça vous chiffonnerait que son Excellence vous ait vu avec votre tête ainsi emmitouflée, mon camarade ?»
Rassuré, le valet poussa un petit gémissement de douleur admirablement fin. Les soldats rompaient les rangs. Du seuil du corps de garde, l'officier de service fit un signe au geôlier d'approcher. Rumignac, au bout d'un instant, revenait dire à Picard.
« Voilà qui va bien, mon camarade. Vous pouvez me suivre. Je vais vous ouvrir la cellule de votre prisonnier. »
« Vous pouvez croire qu'il m'en coûte !» soupira le vieux serviteur pour répondre quelque chose.
« Baf, c'est un prisonnier pour rire, celui-là, et je vous garantis qu'il boit et mange bien maintenant. »«
Ah, que m'annoncez-vous là ?
La vérité, pardi !
Vous ne sauriez vous imaginer quel plaisir vous me faites en me parlant ainsi. » On approchait. « Voici la cellule, » fit Rumignac en montrant un numéro sur la porte. Puis il souffla à l'oreille de son compagnon.
« Voulez-vous voir ce que fait le prisonnier en ce moment ?»«
Oui, » répondit Picard. « Je vais tout doucement ouvrir le guichet. Placez-vous là, à côté de moi, et quand je vous tirerai par le bras, vous regarderez. »«
Par exemple, » ajouta-t-il, « il faut marcher à pas de loup pour ne pas donner l'éveil à notre homme. »
Le brave serviteur était ému plus que nous ne pouvons le dire. Dans quelques instants, il allait commettre un acte qui pourrait lui coûter la liberté à lui aussi. Et malgré la perspective de ce danger, il lui tardait de prouver à son maître combien il lui était dévoué. Il étouffa donc le bruit de ses pas, ainsi que le lui avait recommandé le geôlier. Tout doucement, les deux hommes arrivèrent devant la porte. Picard retenait son haleine. Le guichet s'ouvrit sans bruit. Rumignac tira son compagnon par le bras, le plaçant ainsi juste en face du guichet. Picard étouffa un soupir. Il voyait Roger, assis, tournant presque le dos à la porte. Les coudes appuyés sur la table et la tête dans les mains, il paraissait plongé dans de tristes réflexions, car ses doigts crispés fourrageaient par instants sa chevelure.
« Il m'attend !» pensa Picard, et comme pour donner raison à la perspicacité du valet, le chevalier leva la tête comme s'il eût écouté.
À ce moment, son regard se dirigea vers le guichet. Il vit les yeux de Picard briller au travers du grillage. Son premier mouvement fut de s'élancer. Puis après réflexion, il reprit sa place sur l'escabeau. Mais sa physionomie, naguère encore si triste, s'éclaira subitement et prit une expression de virilité qui ranima la confiance des Picards. Le chevalier lui avait fait signe qu'il était prêt à l'aider vigoureusement. Ces deux hommes s'étaient compris. Désormais, le rusé valet pouvait agir. De lui-même, il éloigna son visage du guichet en disant au geôlier « Nous pouvons entrer. » Rumignac tenait déjà la clé toute prête. Il l'introduisit dans la serrure dont le pêne cria deux fois. La lourde porte roula sur ses gonds. Au bruit, comme s'il eût été surpris, le chevalier s'était retourné. En apercevant Picard, il se leva. Mais un signe imperceptible du valet le retint à sa place. Il attendit que le geôlier refermait la porte. Puis, d'un ton hautain qui contrastait avec le regard affectueux qu'il adressa au valet, « Que me veut-on » demanda-t-il. Rumignac criait sous cap de l'air embarrassé de son ami Picard, et il se disait à part soi. « Hé là, mon bonhomme, tu fais le brave et fendant quand nous sommes seuls, mais m'est avis que tu files doux lorsque tu te trouves devant monsieur le chevalier. » Le fait est que le vieux serviteur tenait la lettre dans sa main comme s'il n'eût osé la présenter. Si bien que Rumignac crut devoir venir à son secours en disant d'un ton emphatique. « Son Excellence, le gouverneur, a bien voulu autoriser le valet de Monseigneur le lieutenant de police à vous remettre en main propre une lettre. Seulement, je crois que M. Picard est un peu malade aujourd'hui, d'une rage de dents, ce qui paralyse sans doute ses facultés. Et si M. le chevalier le permet, c'est moi qui vais avoir l'honneur de lui remettre la missive de Monseigneur. » Et joignant le geste à la parole, il avançait déjà la main pour saisir le pli. Mais au moment où il allait l'atteindre, prompte comme l'éclair, Picard s'éloigna d'un pas, plongea sa main dans son gousset et envoya une poignée de tabac en plein dans les yeux du geôlier. Rumignac tomba à la renverse dans les bras du chevalier accouru pour aider Picard, tandis que celui-ci envoyait dans la figure du geôlier une seconde poignée de la poudre en murmurant entre ses dents. « Tu aimes le tabac à la rose, mon bonhomme. Eh bien, en voici encore. » Le malheureux Rumignac n'avait pu pousser un cri. Les mains portées aux yeux, il étouffait de souffrance et de colère. Picard saisit le moment où sa victime ouvrait la bouche pour lui enfoncer le bâillon entre les dents. Et tandis que le chevalier lui attachait le mouchoir, le valet, surexcité par ce premier succès, s'écriait. « Ah, ton procédé est bon, excellent, merveilleux, mon cher Rumignac. Et tu vois que j'ai bien retenu tout ce que tu m'as dit. » Puis il s'interrompit pour dire à Roger. « Serrez fort, monsieur le chevalier. Faites quatre nœuds plutôt qu'un. Il ne faut rien économiser aujourd'hui. » Le geôlier se tordait dans un accès de rage furieuse et la douleur qu'il éprouvait aux yeux devait le mettre au supplice. Faisant un effort désespéré, il avait réussi à se placer sur son séant. Il luttait comme un diable contre ses deux agresseurs. Ce que voyant, Picard dit à son maître. « Fouillez dans les poches de mon habit. Monsieur le chevalier trouvera des foulards. » Roger avait fait ce qu'on lui disait. « Nous allons le ficeler comme il faut, mon maître, » fit Picard, en se servant des foulards avec une célérité et une habileté qu'on ne lui eût certainement pas soupçonnée. Il avait fait signe au chevalier de retirer la veste du geôlier pendant qu'il maintenait celui-ci. « Je vais t'aider, mon bon Picard, » répondit le gentilhomme en enlevant le vêtement qu'on lui désignait. « Et à mon tour, je te recommande de ne pas épargner les nœuds. » Cette fois, le valet était absolument satisfait de lui-même, car à chaque nouveau nœud qu'il serrait de toutes ses forces sur les poignets, il interpellait sa victime. « Tes leçons ont du bon, mon bon Rumignac. Quel dommage que je sois obligé d'en faire l'expérience sur toi-même. Mais sois tranquille, tu n'en mourras pas. Est-ce bien comme ça que tu as arrangé le geôlier anglais ?» Et s'adressant à Roger, « Serrez fort les jambes, monsieur le chevalier. » Puis à Rumignac, « Tu vois, mon vieux, tout y est, le tabac, le bâillon, les cordes. » Puis se levant, « Et te voilà en notre pouvoir. C'est à ton tour d'être le prisonnier de mon maître. Mais nous serons cléments, et avant de te quitter, mon brave Rumignac, nous te ferons un cadeau soigné. Tu verras cela. » Roger, enthousiasmé de la façon dont son valet avait combiné et exécuté l'opération, saisit les deux mains de Picard et les étreignant dans les siennes. « Viens, mon ami, » s'écria-t-il, « viens, et une fois libre, je te témoignerai toute ma reconnaissance. » Mais Picard l'interrompit aussitôt en lui disant à voix basse, « Oh, monsieur le chevalier, pas si vite, vous allez tout compromettre. » Et comme Roger fronçait les sourcils, « Ayez confiance, jusqu'au bout, je vous jure qu'il ne dépendra pas de moi que nous ne sortions promptement d'ici. » En douterais-tu par hasard? Tant que je ne serai pas au fin fond de la rue Saint-Antoine, je ne me trouverai pas en sûreté. Roger était devenu pâle. Au fait, demanda-t-il, comment allons-nous sortir de la Bastille? Vous allez le voir, mon excellent maître. Et tout d'abord, ajouta-t-il en enlevant le foulard, le bandeau et la ouate qui lui couvraient le visage, Je n'ai plus ni fluxion, ni mal aux dents. » Il avait posé les différents objets sur la table et revenant vers Roger. «
Monsieur le chevalier, dit-il, il faut nous dépêcher. »
« À quoi faire ? » ?»«
À déshabiller cet homme. »
Puis s'apercevant d'un mouvement d'hésitation chez son maître, « Monsieur le chevalier voudra bien me pardonner de lui imposer une si désagréable besogne, mais nous n'avons pas le choix des moyens. »
Déjà, Roger s'était baissé vers Rumignac et se mettait bravement en devoir de le dévêtir.
Pendant ce temps, Picard lui disait « Tirez la culotte, moi je me charge des souliers. » En moins de 3 minutes, le malheureux geôlier n'avait pour tout vêtement que sa chemise et son caleçon. Et tout en le déshabillant, Picard lui disait joyeusement «
Eh bien, mon cher Rumignac, ai-je bien profité de tes leçons ?
Tu es, j'en conviens, un excellent professeur. Mais je ne crois pas être un trop mauvais élève. »
Picard s'excitait ainsi à parler pour se donner du courage, car intérieurement, bien qu'il n'en voulût rien laisser paraître, il n'était que médiocrement rassuré. Il réfléchissait qu'il pouvait, en franchissant le seuil de la cellule, tomber sur une ronde de guichetier, et tout son sang ne faisait qu'un tour, ainsi qu'il le disait souvent. Il se gardait bien cependant de faire part de ses appréhensions au chevalier, d'autant plus que Roger, énervé, fiévreux, pouvait tout compromettre, soit par un accès de colère, soit par trop d'empressement à vouloir quitter la cellule. Déjà, il avait répété à plusieurs reprises «
Voyons, Picard, dépêchons-nous !»
Force fut donc au vieux serviteur de répliquer
« Je comprends toute l'impatience qui vous agite, monsieur le chevalier, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, et mon maître voudra bien maintenant se déshabiller à son tour.
Pourquoi faire ?
Pour changer de costume.
Avec qui ?
Et il indiquait du doigt la défroque du geôlier.
Non pas, non pas, fit Picard. Je me suis réservé tout cela. Monsieur le chevalier voudra bien endosser mon habit.
Tout en parlant, Picard avait remplacé l'habit de Roger par le sien.
Et la culotte aussi, monsieur le chevalier. Il faut accepter ma livrée tout entière, afin de n'être pas reconnu dès les premiers pas que vous risqueriez devant ces gredins de guichetier.
En un rien de temps, Picard eut opéré le déguisement de son maître, comme eût pu le faire le costumier le plus habile.
« Rien n'y manque, dit-il en récapitulant. Les souliers à boucles d'argent, bas noirs, culotte idem, gilet idem, idem l'habit. »
Puis arrachant sa perruque.
« Jusqu'à ceci, mon maître respecté, qu'il faut que vous placiez sur votre jeune tête. »
Sans répondre, le chevalier prit la perruque et la posa sur sa tête, en faisant disparaître ses cheveux dessous, de façon à ce que pas un seul ne dépassât. De son côté, le valet avait endossé le costume du geôlier. Ainsi déguisé, il passa à sa ceinture le trousseau de clés qu'il avait enlevé à Rumignac dès le premier moment de la lutte, se coiffa du bonnet en peau de lapin du geôlier, et pour imiter Rumignac et mieux déguiser son visage, il baissa les oreillettes du bonnet et se les attacha sous le menton, ainsi que le faisait souvent Rumignac. Certes, il eût fallu le regarder de bien près pour découvrir la supercherie. Il n'en était pas de même du chevalier dont le visage était entièrement découvert. Mais Picard avait tout prévu.
« Monsieur le chevalier, c'est vous qui, maintenant, allez avoir mal aux dents à votre tour, ce qui obligera votre fidèle serviteur de vous empaqueter la figure avec cette ouate et ce foulard. »
Avant que Picard eût terminé la phrase, Roger s'était emparé des objets désignés et se les appliquait lui-même sur le visage pendant que le valet épinglait la bande et nouait le mouchoir. Lorsque cette mascarade fut achevée, « Il ne nous reste plus, déclara le vieux domestique, qu'à nous précautionner contre une surprise.
Qu'entends-tu par là ?
Qu'un gardien peut, en passant devant cette porte, avoir la fantaisie de jeter un coup d'œil par ce guichet. Et alors ?
C'est juste, il faudrait faire disparaître cet homme.
Rien de plus facile, comme vous allez voir, monsieur le chevalier.
Et saisissant le geôlier par les pieds, « Prenez-le par la tête, » dit-il à Roger.
Soulevé de la sorte, Rumignac fut transporté sur le lit du prisonnier, enfoui sous les couvertures qu'on lui releva jusqu'au milieu du visage, lui laissant tout juste le nez libre pour qu'il pût respirer. Rien n'avait été négligé et tout ce travail n'avait pas exigé une 20aine de minutes. Picard monta sur la table qu'il avait approchée de la lucarne et plongea ses regards le plus loin qu'il put. La cour était déserte. Il vit la poterne par où ils allaient sortir si rien ne survenait en route. Et cherchant dans le trousseau la clé que l'infortuné Rumignac lui avait indiquée, on s'en souvient, il la tint toute prête dans sa main. En ce moment, un bruit de pas se fit entendre distinctement sur les dalles du corridor. Quelqu'un approchait qui probablement allait passer devant la cellule.
« Pourvu qu'il ne lui prenne pas fantaisie d'ouvrir le guichet !» murmura Picard à l'oreille de son maître.
Sans répondre, le chevalier saisit la main de son vieux serviteur. Tous deux se regardèrent comme s'ils allaient essuyer le feu ensemble. Tout à coup, le sang se glaça dans les veines de Picard. L'homme qui marchait dans le corridor venait de s'arrêter devant la cellule.